10 minutes chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur qui a souvent, pour le grand public, mauvaise réputation. Grossier, ivrogne, obscène, ce qui n'est pas tout à fait faux. Cependant, cette réputation, particulièrement en France, causée par son comportement dans une émission littéraire le 29 septembre 1978, a soit donné envie de le connaître mieux, soit l'a définitivement figé dans un rôle unique d'écrivain peu fréquentable. Il s'agit bien sûr de Charles Bukowski, de Mémoire de téléspectateur le plus scandaleux de tous les invités d'apostrophe. Sulfureux sans doute, mais grand écrivain américain dans la lignée d'un John Fante, qu'il a d'ailleurs contribué à faire découvrir. L'un et l'autre, venus de milieux très modestes, ont dans leur œuvre raconté leur propre histoire, dans la tradition littéraire américaine, des marginaux qui ne trouvent nulle part leur place dans la société. Jamais ils ne la trouveront vraiment, sauf par le détour de leur immense talent, animé par la rage. Le style de Charles Bukowski est celui de l'autodérision, celui d'une vulgarité assumée, un pied de nez à la belle écriture, grâce à des phrases courtes et sèches, où la provocation cache un écœurement sous-jacent, agressivement obscène et clandestinement sensible. Le jeune Henri Charles Bukowski est né en 1920 à Andernach, en Allemagne. Sa mère est allemande, son père américain. Quand il a 3 ans, ses parents décident d'émigrer en Californie, à Los Angeles, pendant la Grande Dépression, dans cette Amérique de la désolation, de l'emploi rare et de la débrouille. Il y restera toute sa vie, et reviendra à la fin de tous ses voyages. Le Los Angeles de Bukowski, ce sont les quartiers où règne la crasse, l'alcool, les prostituées et des femmes accueillantes. Mais où, à défaut d'entrer dans la norme imposée par la société, au prix de la déchéance, on est libre. Voici ce qu'il en dit. Los Angeles regorge dehors la norme, tous plus bizarroïdes les uns que les autres, croyez-moi sur parole. Ils sont plus nombreux qu'on ne le pense, ceux qui, nullement pressés de pointer au chagrin, ne seront jamais coincés sur les périphériques dès 7 heures du matin, ou ceux qui, dépourvus d'un emploi régulier, sont résolus à n'en chercher aucun. Entre imiter le commun des mortels et crever la gueule ouverte, ils ont choisi. Et devinez quoi ? Qu'ils le soupçonnent ou non, ce sont tous des génies, engagés dans une guerre d'usure contre les fausses évidences, des génies ne connaissant qu'un seul type de nage, celle qu'on pratique à contre-courant, des génies préférant à une vie bien rangée l'herbe, le whisky, l'art, le suicide. Et je fais corps avec eux. Nous ne sommes pas prêts à rejoindre le troupeau ou à jeter l'éponge. Aujourd'hui, je parlerai d'un livre que Bukowski a écrit à 60 ans, paru en 1982, alors que bien d'autres de ses romans et poèmes avaient déjà été publiés. Parfois, il faut prendre le temps du recul, après beaucoup d'années, avant de pouvoir faire le récit de ce que l'on a subi dans son enfance et sa jeunesse. Les plus endurcis, parfois, y réussissent. Quelque chose a besoin de surgir, et comment mieux faire que de l'écrire ? Le voir sous ses yeux se détacher, peut-être en devenant visible aux yeux de tous. Ce livre, Ham on Rye, que l'on peut traduire par « Jambon sur pain de seigle », a pour titre en français « Souvenir d'un pas grand-chose », dédié ainsi pour tous les pères. Et en effet, le sujet de ce roman autobiographique, censé raconter les premières années de son auteur, est bien le père de Bukowski, à cause de l'influence et du pouvoir qu'il a eu sur son fils pendant son enfance et son adolescence jusqu'au moment de la rupture. Un père qui a marqué la personnalité de Bukowski pour toujours par sa violence physique et morale. Bukowski s'emploiera à être le contraire de cet homme qui représentera pour lui la violence d'une société. Il l'exprime grâce à une écriture sans filtre ou sentant comme une urgence pourtant longtemps réprimée dire, écrire, déverser l'absurdité ressentie par un enfant devant l'irrationnel, qui doit se durcir au milieu d'un monde qui lui semble irréel, tellement différent de ce qu'il vit au quotidien. Un monde vide de sens. Quand il devient écrivain, Bukowski supprime son premier prénom, Henri, qui est aussi celui de son père. C'est à la maternelle que je rencontrai les premiers enfants de mon âge. Ils avaient l'air très bizarres. Ils riaient et parlaient. Ils avaient l'air heureux. Je les détestais. J'avais toujours l'impression d'être sur le point de vomir. L'air semblait étrangement calme et blanc. On peignait avec de l'aquarelle. On plantait des graines de radis dans un jardin et quelques semaines plus tard, on les mangeait à la croque au sel. J'aimais bien la maîtresse du jardin d'enfants. Je la préférais à mes parents. Un de mes problèmes, c'était d'aller aux toilettes. J'avais toujours besoin d'y aller, mais comme j'avais honte que les autres le sachent, je me retenais. C'était horrible. La communale, ce fut autre chose. De la 11e à la 7e, il y avait des gamins qui avaient jusqu'à 12 ans, et nous venions tous de milieux pauvres. Je commençais à aller aux toilettes, mais rien que pour pisser. Une fois que j'en sortais, je vis un petit qui buvait de l'eau à un robinet. Un grand arriva derrière et lui écrasa la figure sur le robinet. Lorsque le gamin releva la tête, il avait des dents cassées et du sang qui lui coulait de la bouche. La fontaine se teinta en rouge. « Si tu caffes à qui que ce soit, lui dit le grand, je te fais la peau. Et ce coup-là, ce sera du sérieux. » Le petit sortit un mouchoir et se le mit sur la bouche. Je revins dans la classe où l'institutrice était en train de nous parler de George Washington et de la bataille de Valley Forge. Elle portait une perruque de cheveux blancs très étudiée. Elle nous tapait souvent sur la paume de la main avec une règle. C'était chaque fois qu'elle croyait qu'on lui désobéissait. Je ne pense pas qu'elle se soit jamais rendue aux toilettes. Je la haïssais. Tous les après-midi après la classe, il y avait une bagarre entre deux grands. Cela se passait toujours le long de la palissade de derrière, là où il ne venait jamais d'un site. Ne pas croire que les pugilats étaient égaux, mais non, c'était toujours un grand contre un petit, et le grand le dérouillait toujours à coups de poing jusqu'au moment où le petit se retrouvait le dos contre la palissade. Les bagarres étaient continuelles, et les incites n'avaient pas l'air d'être au courant. Un jour, Henri Chignaski, nom de fiction de Charles Bukowski, se bat avec un autre enfant pendant la récréation. Envoyé chez M. Knox, le directeur, il refuse de répondre à ses questions. Bien sûr, M. Knox écrit une lettre pour les parents d'Henri, qui la rapporte à la maison et la donne à sa mère. Ma mère était en train de lire le mot du principal. Bientôt, je l'entendis pleurer, et puis pousser des vagissements.
« Oh, mon Dieu, tu nous as déshonorés, ton père et moi, c'est une honte. Et si les voisins l'apprenaient? Oui, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça ?»
Les voisins, jamais ils ne leur parlaient. J'entendis mon père rentrer. Il fallait toujours qu'il claque la porte, marche à pas pesant et parle fort. Ça y était, il était là. Au bout d'un moment, la porte de ma chambre s'ouvrit. Mon père faisait 1m90, c'était un costaud. Fauteuil dans lequel j'étais assis, mur, papier peint et pensée qui me trottaient par la tête, tout disparut. Les ténèbres qui recouvrent le soleil, c'était lui. Devant la violence qu'il avait en lui, tout le reste disparaissait. Mon père était tout en oreilles, nez et bouche. Je ne pus même pas regarder ses yeux. En face de moi, il n'y avait qu'un visage rouge de colère.
« Parfait. Henri, passe à la salle de bain. »
J'entrai. Il referma la porte derrière nous. La mur était blanc. Il y avait une glace et une petite fenêtre. La moustiquaire était noire et cassée. La baignoire, le siège des cabinets, le carrelage. Il tendit la main et décrocha le cuir à rasoir d'un piton. C'était la première raclée de ce genre que j'allais recevoir. Elles allaient être nombreuses et se répéter de plus en plus souvent. Et sans vraie raison, à mon avis au moins.
« Parfait. Et maintenant tu baisses ton pantalon. »
Je baissais mon pantalon.
« Et ton caleçon ? »
Je le baissais, lui aussi. Il attaqua avec le cuir. Le premier coup me fit plus de peur que de mal. La douleur arriva avec le second et augmenta avec chacun de ceux qui le suivirent. Au début, je sentais bien qu'il y avait des murs, un siège de WC, une baignoire. À la fin, je ne vis plus rien du tout. Il me réprimandait tout en me battant, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je pensais à ses roses, à la façon dont il s'y prenait pour les faire pousser dans la cour. Je pensais à son automobile dans le garage. J'essayais de ne pas hurler. Je savais que si je le faisais, il s'arrêterait sans doute. De le savoir et de deviner qu'il avait envie de m'entendre hurler m'en empêchait. Les larmes coulaient de mes yeux, mais je restais silencieux. Au bout d'un moment,
Tout ne fut plus qu'une espèce de grand tourbillon, de confusion générale, d'où il n'émergeait plus qu'une seule possibilité, parfaitement horrible, celle de rester là jusqu'à la fin des temps. Pour finir, comme quelque chose qui démarre avec une secousse, je commençai à sangloter et avaler les cochonneries salées qui m'avaient coulé dans la gorge et me mis à m'étouffer. Il s'arrêta. Il n'était plus là. Je sentis à nouveau la présence du miroir et de la petite fenêtre. Là-bas, il y avait le cuir à rasoir. Il était accroché à un piton. Il était long, il était marron, il était tout tordu. Comme j'étais incapable de me pencher pour remonter mon pantalon et mon caleçon, je gagnai la porte avec maladresse, mes habits autour de mes chevilles. J'ouvris et trouvai ma mère debout dans le couloir. « C'est pas bien, lui dis-je. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à mon secours ?»« Le père a toujours raison, » me répondit-elle.
Il a 10 ans. Il est devenu un dur. Après avoir été battu, il retombe dans l'indifférence de ce qui lui arrive. Quand les coups s'annoncent régulièrement, la plupart du temps sans raison, il est comme annihilé, même pas peur. Dans le journal d'un vieux dégueulasse, paru en 1969, son premier grand recueil de nouvelles et chroniques, il dit « Je me sentais indifférent à ce qui m'arrivait. Je veux dire que j'étais ailleurs, vraiment. Tout ce cirque ne me concernait pas. N'éprouvant aucune affection envers mes parents, je ne vivais pas ce tabassage comme une absence cruelle d'amour, comme un déni de justice, ou plus simplement, comme un manque de chaleur humaine. C'est ainsi que le monde lui devient étranger. Ce monde idéal du père, celui de la religion, de la patrie, du travail acharné pour émerger au-dessus de la misère, l'aspiration impossible à la richesse. Cet homme, dit-il, se croyait riche, même sans emploi, tellement il voulait l'être. C'est pourquoi il interdit aux petits garçons de jouer avec les enfants du quartier, pour se donner l'impression qu'il appartient à une classe qui leur est supérieure. La prochaine fois, le 22 mai, suite de cette série consacrée à Charles Bukowski. À bientôt.